Nous allons parler de la vision spirituelle que Jésus évoque ici, donc dans Matthieu chapitre 6 et le verset 22. Jésus a parlé des yeux. Matthieu chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors Jésus ici nous parle de la nécessité d'avoir un œil en bon état. Si ton œil est en bon état. Ce qui signifie pour Jésus que nos yeux peuvent être soit en bon état, soit en mauvais état. Et il y a une manière de savoir comment sont nos yeux, c'est-à-dire de faire une sorte de révision. De même qu'on va chez l'oculiste pour savoir si notre vue a baissé, de même on peut savoir si notre vue spirituelle a baissé. C'est vrai que l'œil humain est extrêmement bien conçu. Il peut s'adapter à toutes sortes de situations. Mais on sait que dans la nature, il existe, par exemple chez l'aigle, un œil encore plus, beaucoup plus précis, qui est capable de voir à 1500 mètres de hauteur un petit mammifère qui circule à toute vitesse. Et donc, il a un œil d'une acuité exceptionnelle. Ce qui est intéressant chez l'aigle, c'est que ses yeux ne connaissent pas de troubles, c'est-à-dire il ne connaît pas les troubles visuels comme nous pouvons en avoir, comme la myopie ou l'astigmatie. Il n'est pas astigmate ni myope, il a cette acuité visuelle jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense que nous, chrétiens, on doit être un petit peu comme des aigles. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que nous pouvons prendre notre vol comme les aigles et avoir cette acuité, même jusqu'à un âge avancé, d'avoir une bonne vision spirituelle et de ne pas perdre de vue les choses de Dieu. Est-ce que nous aussi, nous avons cette vision qui ne s'arrête pas aux choses de la terre, mais qui voit derrière les choses matérielles, donc la vue avec les yeux de la foi? J'aimerais donc parler de ces yeux, peut-être une première partie qui nous parle de l'influence de nos yeux. D'abord, il y a un verset qui nous montre qu'on peut avoir un regard superficiel, nous, en tant qu'être humain. 1 Samuel 16, 7 nous dit, l'Éternel qui parle à Samuel dit, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Vous connaissez bien ce passage où Samuel est appelé par Dieu à oindre le roi d'Israël, à la place de Saül, le successeur de Saül. Et à un moment donné, il s'est laissé conduire par ses yeux. Et voyant Eliab, dit la Bible, voyant Eliab, il dit, mais certainement, Eliab, c'était l'aîné, donc le plus, physiquement le plus fort, certainement, le plus âgé, et qui avait la meilleure apparence. Et même lui, qui est prophète, donc Samuel, il se laisse impressionner par ses yeux. Et il dit, certainement, c'est Eliab que Dieu a choisi. Il est en train de faire fausse route, tout simplement. Il est en train de ne pas faire la volonté de Dieu s'il va jusqu'au bout, parce qu'il se fie à sa propre vision des choses. Et nous avons souvent un regard superficiel. C'est pour ça que Dieu va être obligé d'arrêter le prophète Samuel et lui dire, non, ne prends pas garde à son apparence, Eliab. Il a peut-être la carrure extérieure, sa taille est impressionnante, mais Dieu ne regarde pas comme tu es en train de regarder. Toi, tu regardes à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Et il se trouve qu'Eliab, malgré sa belle prestance, son cœur n'était pas celui que Dieu voulait. Il y en avait un autre plus loin, donc il y a eu d'autres fils qui sont passés. Et puis, il s'agissait de David, finalement, qui a été oint. Ceci pour montrer qu'on a besoin d'être corrigé dans notre regard superficiel des choses. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas tomber dans ces pièges, un petit peu du premier regard, en disant, ah bien, celui-là, on peut lui faire confiance, ou celui-là, il a une bonne apparence. Et des gens qui peuvent avoir une bonne apparence, en réalité, sont des escrocs. Et même Jésus dit que, même dans le côté religieux, les pharisiens pouvaient avoir une apparence extérieure très recommandable, mais à l'intérieur, c'était comme des sépulcres qui étaient pleins d'ossements. Donc, Jésus voyait, discernait à l'intérieur qu'il n'était pas droit devant Dieu. Alors, dans l'influence de nos yeux, on peut dire premièrement qu'il y a un regard humain superficiel duquel nous devons nous détacher et pas dire simplement « Ah oui, celui-là, on peut lui faire confiance ». Attention, il faut aussi avoir du discernement spirituel. Ensuite, il y a aussi l'aspect, toujours dans l'influence de nos yeux, de ce que nous regardons comme la femme de Lot qui a regardé en arrière. C'est dans Genèse 19, verset 26. Il est dit que la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. On voit que directement le fait de regarder en arrière, pour elle, a été la cause même de sa mort. Pourquoi cette affaire est arrivée? D'abord, Lot avait traîné ses tentes jusqu'aux portes de la ville de Sodome et Gomorre, qui étaient connues comme des villes d'immoralité. Et voilà que Lot, un croyant qui avait vécu aux côtés d'Abraham, allait commencer à vivre dans le compromis, tout simplement, de la société. Et si bien que les filles même de Lot commençaient à avoir des fréquentations avec les gens de la ville, etc. Donc ils vivaient dans cette sorte de compromis. Et à un moment donné, Dieu, qui allait intervenir pour juger la ville, s'est manifesté. Il y a eu ces anges qui sont venus et qui ont dit « Maintenant, vous allez sortir de la ville avec ta famille. Tu sors de Sodome et Gomorre. C'est le seul moyen de salut. » L'ordre était simple. Ne regardez pas en arrière. Vous ne regardez pas en arrière et vous ne vous arrêtez pas dans la plaine. Parce que c'était difficile à accomplir. Sortir de la ville, ne pas regarder en arrière et ne pas s'arrêter dans la plaine. Est-ce que c'était si difficile que ça? Je pense que c'était à la portée de tout le monde. Et simplement, il fallait obéir à l'ordre de Dieu. Et malgré tout, malgré la simplicité même de la chose, la femme de Lot a désobéi. Elle a fait justement, expressément, ce qui était interdit. Ne regardez pas en arrière. Et bien, elle a fait exactement ce qu'on lui avait dit de ne pas faire. Et il y a un côté comme ça dans le péché ou dans le mal, c'est de faire les choses justement qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous demande et de faire l'inverse. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait, mais c'était de sa volonté. Personne ne l'a forcé à regarder en arrière. Peut-être même son mari lui a dit non, non, non. Et puis c'était trop tard. Et puis voilà, elle a regardé et elle a été transformée en statue de sel. Elle a voulu peut-être jeter un dernier regard vers cette ville. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'elle regrettait ce qu'elle avait quitté? Est-ce qu'elle regrettait cette vie de compromis, cette vie de Sodome et Gomorre où il y avait l'immoralité? Est-ce qu'elle n'avait pas laissé son cœur là-bas à Sodome et Gomorre? Est-ce qu'elle voulait y retourner et finalement ne pas quitter cette ville des plaisirs? On ne sait pas quelles étaient les motivations de cette femme quand elle a regardé en arrière, mais en tout cas Jésus a cité cet exemple de cette femme comme un mauvais exemple. Et même ailleurs, Jésus a dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc Jésus est dans la même dimension, c'est que nous devons veiller sur nos yeux, non seulement ne pas avoir un regard superficiel comme Samuel, on l'a évoqué, mais ne pas regarder en arrière pour pouvoir avancer dans le royaume de Dieu. Une autre chose qu'on peut dire toujours dans l'influence de nos yeux, c'est celui qui regarde toujours vers les difficultés. Alors ça influence. Psaume 121, verset 1 nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et quand on regarde les montagnes, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que Dieu va intervenir? Est-ce que Jésus est avec moi? Comment ça va se passer? Etc. Il y a deux manières de voir les montagnes. Soit on la regarde d'en bas et elle va nous paraître immense, imposante, hostile, infranchissable. Soit on la regarde, on prend l'avion, on la regarde d'en haut et on la voit sans relief et on peut la franchir. C'est la même montagne, mais ça dépend l'angle de vue. Soit on la regarde d'en bas, soit on la regarde d'en haut. Et je dirais que nous, chrétiens, nous devons développer notre vision plutôt du haut vers le bas. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il y a un chant qu'on prend parfois qui dit « Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu ». Nous avons donc une position en Christ qui fait de nous des croyants victorieux. Et la Bible nous rappelle, nous sommes assis avec Christ, donc nous devons développer une vision aussi spirituelle, mais d'en haut, c'est-à-dire regarder la montagne du haut vers le bas. Et ainsi, elle ne nous paraîtra pas aussi difficile à franchir ou à surmonter qu'elle ne nous paraissait quand on regardait d'en bas, comme le psalmiste dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Effectivement, il a la réponse qui vient dans la suite du psaume, « Le secours me vient de Dieu. » Et c'est Dieu qui apporte la délivrance dans toutes nos difficultés. Toujours dans ce premier point, il y a un autre regard qui est évoqué dans la Bible au Proverbe 27 et au verset 20. C'est le regard insatiable de l'homme. Proverbe 27, 20 dit « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. » C'est-à-dire que l'homme n'est jamais satisfait de ce qu'il voit. Il veut voir toujours de nouvelles choses. Et c'est vrai encore aujourd'hui parce que il y a cette soif de découverte, de toujours de nouvelles expériences, avoir un nouveau regard. Et c'est vrai que nous, chrétiens, nous pouvons développer aussi un regard, j'allais dire satisfait, au lieu d'un regard insatiable, un regard satisfait. C'est-à-dire quand on regarde un paysage, quand on regarde la création, de voir derrière ces choses le Créateur, de voir la main de Dieu. Ça, c'est le regard chrétien, le regard spirituel, qui ne s'arrête pas, j'allais dire, à un beau paysage, mais qui voit plus loin, qui voit l'auteur, qui voit l'artiste, le grand artiste qui a créé l'univers. Ça, c'était la première partie, le regard. Et dans une deuxième partie, quelles sont les causes de la baisse de la vision de ses yeux? Une première cause, c'est la douleur. Dans Job chapitre 17, verset 7, il est dit « Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. » Job a eu des souffrances très importantes et la douleur, bien sûr, va modifier notre vision des choses. D'ailleurs, quelqu'un qui souffre, quand on discute avec quelqu'un qui souffre, bien souvent, sa souffrance lui fait voir les choses au travers de sa maladie ou de sa souffrance ou de ses difficultés. Même la souffrance affecte notre morale et de fait, notre vision aussi peut en être affectée. Et la souffrance peut nous obscurcir les yeux. Job dit « Mon œil est obscurci par la douleur », c'est-à-dire qu'il ne voit plus les choses comme avant, quand j'étais pas malade, ou quand je souffrais pas. Donc, un œil obscurci, ça veut dire qu'il ne voit plus la main de Dieu, ça veut dire qu'il ne voit que la douleur maintenant, il ne voit que la souffrance. Et quand on en arrive là, qu'on ne voit plus que les difficultés, l'adversaire, la souffrance, que les choses négatives, on tombe dans cet œil obscurci. Mais je crois que il ne faut pas nous arrêter là, parce que la douleur ne doit pas nous faire oublier que Dieu est avec nous quand même. Et je pense à cette illustration pour vous montrer que Dieu, lui, il est toujours dans sa position, il est toujours avec nous, il est toujours dans la gloire. Et même quand bien même on souffre, que lui, il ne change pas, c'est que le soleil, par exemple, il y a beau y avoir des nuages qui nous cachent le soleil, peut-être ça peut évoquer la souffrance. Un épais voile de nuages va nous cacher le soleil, mais ça n'empêche pas que derrière les nuages, le soleil, il brille toujours. Donc notre Dieu, si vous voulez, il ne change pas en fonction des épreuves ou de la météorologie ou des difficultés qu'on peut traverser. Même si notre œil est obscurci par un voile de nuages, notre Dieu, lui, il reste fidèle. Il a toujours le même éclat, si on prend l'image du soleil. Et même si les nuages ont beau le cacher à nos yeux, nous savons que derrière cela, le soleil brille toujours. Alors, gardons cela aussi dans notre cœur. Si notre œil est obscurci par la douleur, n'oublions pas que le Seigneur, lui, il veille sur ses enfants. Une autre cause de cette perte de vision, c'est la peine. On le voit avec ses deux disciples d'Emmaüs, dans Luc 24. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ces deux disciples, donc, qui ont le privilège de voir Jésus ressuscité, mais ils ne reconnaissent même pas Jésus. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils faisaient route, mais parlaient d'une manière assez défaitiste, assez négative des événements qui venaient de se passer. Jésus était mort, crucifié. C'était leur seul espoir. Pour eux, c'était le Messie qui était venu. Ils ne comprennent pas pourquoi ces choses sont arrivées. Et donc, ils ne s'attendaient pas à la résurrection. Ils étaient donc tristes. Ils avaient de la peine et il disait à cet homme qui vient les rejoindre, pourtant qui est Jésus, il dit « Mais n'as-tu pas entendu parler de ce qui s'est passé ? Un homme, un prophète, etc. qui est venu de Dieu, il parle de Jésus. » Et tout ce qui va entretenir tout ce qu'ils entretiennent dans leur cœur de la peine, ça va tellement affecter leur vision des choses qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Et est-ce que c'est possible aussi pour nous qu'on ait tellement de peine qu'on ne voit même pas Jésus qui vient à notre rencontre pour nous encourager, parce que Jésus était venu pour les fortifier, pour les aider, mais ils ne le reconnaissaient pas. Alors ne nous fions pas à, j'allais dire, des sentiments comme la peine, la tristesse, et au point de ne plus voir Dieu, de ne plus voir Jésus, d'avoir baissé notre vision spirituelle, mais fions-nous aux promesses de la parole de Dieu qui sont certaines. Une autre cause de baisse de vision, c'est la crainte. Dans Marc chapitre 6, verset 49, c'est Jésus qui apparaît là aux disciples sur la mer, en train de venir à leur rencontre alors qu'ils sont dans la tempête. Quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent de grands cris. Alors la mer de Galilée, on connaît ce récit, en pleine nuit, une tempête s'est levée. En général, déjà la nuit, on n'est pas très à l'aise parce qu'on ne voit pas justement loin, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de nous, c'est assez propice à l'angoisse. Et toutes sortes de pensées négatives peuvent survenir, des craintes. Quand on est la nuit seul quelque part, ou là, ici, isolé au sein d'une tempête, au milieu d'un lac, évidemment, la peur gagne les cœurs. Et à cause de cette crainte, on peut dire « Jésus vient vers eux », oui, mais à cause de la crainte, l'affolement, ils ne voient pas Jésus. Ils croient voir un fantôme, ils croient voir autre chose. Alors, quand nous sommes dans la crainte, notre vision est perturbée. Et si on regarde vers la tempête, si on regarde vers peut-être une mort certaine, eh bien voilà, notre vision est détériorée et on voit presque des fantômes. Bien sûr, les fantômes n'existent pas. On sait que ça, c'est encore une invention de leur imagination, bien sûr. Les fantômes n'existent pas, mais ceci pour dire que dans la crainte, ils ont tellement peur qu'ils croient voir des choses qui n'existent même pas. Et ceci est vrai aussi pour nous, que nous pouvons arriver dans des moments où nous ne voyons pas les vérités comme Jésus qui vient, mais nous voyons d'autres choses qui sont des développements de notre imagination à cause de nos craintes, à cause de nos peurs. Jésus aussi a parlé d'une autre cause d'une baisse de vision, c'est la poutre qui peut être dans notre œil, dans Matthieu chapitre 7. Verset 3, lorsqu'il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» La poutre, la paille. La poutre, donc, va être une source ça va occulter la vision correcte des choses. Et notre vision, certainement, si nous avons une vision pour voir les défauts chez les autres, nous n'arrivons pas à voir nos propres poutres qui sont dans notre œil. Et Jésus nous le montre ici, que la vue baisse inévitablement quand il y a une poutre dans notre œil. Qu'est-ce que la poutre? Quand Jésus dit d'abord, ôte la poutre de ton œil, après tu verras comment aider celui qui a une paille dans le tien. La poutre, c'est notre orgueil, c'est notre manière humaine de voir les choses, c'est la vanité de cette terre. Et cette poutre va créer une vision déformée, c'est-à-dire qu'on va se croire supérieur aux autres, on va juger, on va critiquer. Or, la parole de Dieu nous demande de considérer les choses à l'envers, c'est-à-dire d'enlever la poutre. Il y a un verset qui dit de considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Et tant que notre vision est déformée, on ne peut pas aider les autres parce que, ayant une poutre dans notre œil, déjà notre vision est mauvaise et ainsi on aura déjà nous-mêmes du mal à comprendre notre propre situation, mais on ne pourra pas aider quelqu'un qui a une paille dans son œil. Dans une troisième partie, on va voir ce que Dieu désire par rapport à nos yeux maintenant. Qu'est-ce que Dieu désire? On a un texte dans Genèse 21 qui nous montre que Dieu veut nous ouvrir les yeux. Genèse 21, 19, c'est Agar. Il est dit que Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. C'est lorsqu'Agar est chassée de la maison d'Abraham avec Ismaël, et rapidement elle se perd dans le désert, et voilà qu'elle n'a pas d'eau, et elle voit sa mort approcher, mort de soif, et puis elle voit la mort de son propre fils sous ses yeux. C'est un événement tragique, terrible dans la vie de cette femme, mais voyez que même dans ces moments extrêmes, où on est près de la mort, eh bien elle tourne, elle fait monter vers Dieu une prière. Elle fait monter une prière de désespoir, et puis Dieu entend sa prière et lui ouvre les yeux. Et c'est là qu'il est dit, et Dieu lui ouvrit les yeux. Ses yeux, on peut dire, ils ne voyaient que la mort imminente, que le désert, la sécheresse, et puis c'était fini pour elle. Mais la Bible dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle a vu qu'il y avait là de l'eau dans un puits et qu'il y allait y avoir la vie. Je crois que Dieu veut nous ouvrir les yeux aussi sur les situations qui nous entourent pour ne pas voir uniquement le désert ou la souffrance ou la difficulté, et que Dieu nous ouvre, qu'on puisse voir les puits, c'est-à-dire l'eau qui va permettre de nous désaltérer et qui est là disponible à côté d'Agar. L'autre exemple que Dieu désire nous ouvrir les yeux, c'est celui des disciples d'Emmaüs qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'ils ne reconnaissaient pas Jésus à cause du découragement. Il est dit un peu plus loin dans le texte que pendant qu'il était à table avec eux, donc Jésus a pris le pain, il a rendu grâce, il a rompu, il leur a donné, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Jésus, mais il disparut de devant. Leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus a permis donc que les yeux de ses disciples s'ouvrent. Alors, même quand Jésus leur expliquait les Écritures, et ça c'est important de passer du temps dans la parole de Dieu, tant que leurs yeux ne s'étaient pas ouverts, ils ne reconnaissaient pas encore Jésus. Alors, c'est à ce moment qu'ils ont saisi l'opportunité. Jésus paraissait vouloir poursuivre son chemin. Ils ont dit non, reste avec nous. Et on a toujours raison de vouloir passer du temps avec le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que leurs yeux se sont ouverts pendant le repas. Pourtant, c'était deux disciples, mais on peut dire qu'ils étaient spirituellement aveugles. Ils ne reconnaissaient pas le Seigneur. Ils étaient découragés. Le Seigneur leur a rendu la vue. C'est possible donc d'être croyant et d'avoir une vision très altérée, très mauvaise, et d'avoir ensuite une vision restaurée en étant en communion avec Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont passé du temps avec le Seigneur et le Seigneur leur a ouvert les yeux. Je pense aussi à cet exemple de Paul dans Actes 26 où il est dit que Dieu lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est-à-dire que Paul reçoit une mission de Dieu. Dieu explique dans ce passage que les gens qui nous entourent, en réalité, ils ne voient pas les choses spirituelles. Ils sont comme aveugles spirituellement. Et Dieu lui dit, moi je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux. Ils vont passer des ténèbres à la lumière. Donc les yeux naturels fonctionnent, c'est-à-dire que les gens autour de nous, ils voient les choses extérieures, mais leurs yeux spirituels sont comme éteints, obstrués, et c'est par la nouvelle naissance qu'on accède à une vue spirituelle. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Seul celui qui est né de nouveau, dit Jésus, il peut voir le royaume de Dieu. Donc Nicodème, tant qu'il n'était pas né de nouveau, il avait beau être un religieux connu, il fallait qu'il passe par ce moment de nouvelle naissance pour que sa vue spirituelle commence enfin à s'activer. Comment faire pour ouvrir nos yeux spirituels? Ben, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Hein. C'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas par nos efforts qu'on peut naître de nouveau. C'est par la foi, c'est par en acceptant le message de Christ. Et lorsque nous naissons donc de nouveau par la foi, les choses cachées aux sages et aux intelligents, c'est ce que Jésus explique, hein, bien, les choses qui sont cachées aux sages, aux intelligents, sont révélés aux enfants. C'est-à-dire qu'on entre dans une dimension que nous ne connaissions pas, une dimension nouvelle, une vision nouvelle. Maintenant, une dernière partie, c'est que faire de nos yeux. Alors Jésus dit quand il y a un œil qui ne fonctionne pas, c'est assez radical, il faut l'arracher. Matthieu 5, 28, « Moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit et pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Voilà, Jésus prend ici un exemple concret du problème du regard, source de tentation. Et c'est vrai qu'à l'époque, bien sûr déjà, mais comme aujourd'hui, à l'époque, les femmes, disons, portaient un poids considérable parce qu'elle devait se voiler pour ne pas être convoitée. Et des écrits même juifs parlaient du danger que les femmes pouvaient représenter pour les hommes. En quelque sorte, la culpabilité reposait sur la femme qui devait se voiler. Mais Jésus, lui, dans son passage ici dans Matthieu 5, 28, il met la responsabilité sur le regard, ici en l'occurrence le regard de l'homme, qui doit veiller sur ce qu'il laisse entrer dans son, par ses yeux dans son cœur. Et il ne met pas le poids sur la femme qui est victime de la convoitise. Et Jésus donc met la responsabilité sur, on va dire, le vagabondage visuel. Nous sommes responsables de ce que nous regardons et de ce que nous laissons rentrer dans notre cœur. C'est ce que dit Jésus. Alors la Bible ne cache pas à d'autres reprises que les yeux sont une occasion de chute. On le voit dès le péché d'Adam et Ève. Ève a chuté lorsqu'elle vit, la Bible dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger, et ça a été le dernier coup de, pour l'entraîner au péché. Lot aussi a chuté lorsqu'il a vu cette plaine de Sodome et Gomorre comme un jardin de l'Éternel, et ça l'a attiré vers ces villes pourtant qui étaient des villes de péché. David a chuté lorsqu'il a vu Bathsheba qui se baignait, il a été attiré par cette femme, il a commis l'adultère. Élie a chuté lorsqu'il a vu l'intransigeance de Jézabel, il a perdu pied, il a tellement été découragé qu'il a demandé la mort. Pierre a chuté lorsqu'il a vu la tempête et qu'il s'est détourné il a détourné son regard de Jésus. Donc la solution du Seigneur, elle est là. Elle dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, donc il nous met en responsabilité. Si on a un problème avec nos yeux, il faut l'arracher, le jeter au loin. Cette, entre guillemets, ablation de l'œil, ça veut dire prendre une position radicale et de dire, à nos yeux, je ne regarderai pas. Comme Job l'a fait, par exemple. Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux pour ne pas poser mes regards sur une vierge. Job 31, verset 1. David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et ça, c'est toujours valable dans nos sociétés où je dirais que le visuel est ultra présent, soit dans les médias, dans les télévisions, internet, etc. On a constamment des visuels qui sont mauvais pour notre âme, mauvais pour notre cœur, et nous devons veiller en tant qu'enfants de Dieu, si c'est pour nous une occasion de chute, et certainement que ça l'est, arrache-le, jette-le loin de toi. Ça veut dire qu'il faut prendre position à ce que nous regardons, parce que ça va affecter toute notre vie spirituelle. C'est très important ce verset de Jésus qui nous dit d'arracher. Arracher et jeter au loin tout ce qui est mauvais. Alors, que faire de nos yeux? Donc, Jésus dit, arrache-les. Ailleurs, il est dit, c'est dans l'Apocalypse, il faut les soigner. C'est dans Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi, Jésus dit, un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est la lettre à Laodicée, hein, l'église de Laodicée. Cette ville était connue d'ailleurs pour des soins ophtalmologiques, et Jésus va demander à cette église qui vit dans une certaine connaissance, on va dire, médicale pour soigner les yeux. Il dit, mais toi, en tant qu'église, tu as besoin aussi d'avoir des yeux spirituels bien nets, parce que c'est une église qui avait perdu la vision. Et ça montre que déjà en tant que croyant, on peut baisser, bien sûr, au niveau de la vision. Mais ça montre aussi que Jésus, il désire que son église, elle soit clairvoyante. Et il dit, mais moi, il dit, demande-moi, viens auprès de moi, j'ai un collyre pour toindre les yeux. Qu'est-ce que c'est que ce collyre? C'est une sorte, on pourrait dire un parallèle avec la médecine, c'est une sorte de médicament pour soigner nos yeux. Et celui qui donne le collyre, c'est Jésus. Jésus, c'est le médecin, il fait le diagnostic, il dit, voilà, tu as un problème, tu as perdu la vision des choses spirituelles. Eh bien, il dit, viens auprès de moi, la prescription, viens auprès de moi, demande le collyre, et puis ça va toindre les yeux. Donc il donne le médicament, c'est le collyre. On ne peut pas faire mieux que Jésus, qui est notre divin médecin. Il fait le diagnostic, il donne la prescription, il donne le médicament qui est le collyre. Donc tout est dans la parole de Dieu, tout ce qui est bon pour nous. Notre chose qu'on doit faire de nos yeux, c'est de les porter dans la bonne direction. Alors il y a pas mal de versets qu'on va pas les lire, mais je vous donne quelques éléments vers quoi nous devons regarder. Bien sûr, regarder vers Dieu, regarder vers Jésus, regarder vers le ciel. On trouve cela dans les psaumes 16, verset 8, Hébreux 12, 2, Actes 7, 55. Regarder vers les sentiers de Dieu, dans le psaume 119, 15. Regarder vers l'œuvre de Dieu, Ecclésiaste 7, 31. Regarder vers le salut de Dieu, psaume 119, 23. Regarder vers la rémunération, Hébreux chapitre 11, verset 26. Regarder vers les choses invisibles et éternelles, 2 Corinthiens 4, 18. Il y a beaucoup de choses vers lesquelles nous devons regarder, où la Bible nous dit, mais détachez nos regards des réalités d'ici-bas pour regarder vers les choses invisibles et éternelles, les choses spirituelles. Et enfin, que devons-nous faire de nos yeux ? Prier. Prier pour qu'ils soient ouverts. David dit à Dieu, il demande à Dieu dans une prière, « Ouvre mes yeux pour que je contemple ta loi. » Ouvre mes yeux. Et c'est vrai que si nos yeux spirituels ne sont pas ouverts quand on lit la parole de Dieu, peut-être on va le lire comme un texte, mais on ne va pas en retirer le bénéfice. Et c'est pourquoi David dit, mais ouvre mes yeux afin que je puisse en bénéficier spirituellement, que je contemple ta loi, que j'entre dans cette dimension, pas seulement de lire la parole, mais d'en retirer toute la nourriture spirituelle. Élisée, vous connaissez la prière d'Élisée aussi pour son serviteur qui ne voyait que les ennemis qui étaient là à Dothan, ça se passe à Dothan, ils sont encerclés. Et le serviteur, il dit, ben voilà, tous les ennemis, il voyait tous les chars de l'armée adverse. Mais à un moment donné, Élisée dit, mais Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Parce que derrière l'armée ennemie, il y avait les chars de l'armée de l'Éternel qui étaient là. Et ce serviteur avait une vision si limitée des choses qu'il ne voyait que les ennemis. Donc, prions le Seigneur pour que nos yeux soient ouverts aussi sur la puissance de Dieu, la manifestation de sa gloire et les armées des anges en présence. Paul prie pour les Éphésiens, dans Éphésiens 1:18, « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir la richesse de l'héritage à venir. » Donc, qu'on ne soit pas limité avec des yeux humains, des yeux terrestres, vous savez, des yeux qui sont limités aux choses terre-à-terre, rationnelles. Nous avons une autre dimension dans notre regard. En conclusion, notre regard est radicalement différent d'un regard humain. Il y a derrière les choses que nous voyons, des réalités spirituelles en présence, et il y a plus que la matière. Si notre vision est simplement limitée à ce que nous voyons, alors nous sommes les plus malheureux des chrétiens. Et au contraire, apprenons à développer la vision spirituelle. Peut-être, si notre vision a baissé, nous avons besoin de Jésus qui va nous donner ce collier pour nous permettre de voir les choses spirituelles. Alors, il ne faut pas tarder, il faut venir au Seigneur tel qu'on est aujourd'hui. Des fois, vous savez, on a tendance à dire, quand on est malade, oui, mais ça va s'arranger avec le temps, je ne vais pas voir le médecin, etc. Mais en réalité, ça peut prendre après des proportions très graves. Quand on est souffrant, il faut pas tarder à venir à Jésus et dire, Seigneur, ma vue a baissé, je ne vois plus les choses comme elles sont selon ta parole, j'ai perdu ce que j'avais reçu. Eh bien, le Seigneur peut nous guérir de nos yeux malades. On va prier un instant, le Seigneur se tenir dans sa présence, afin qu'il nous donne cette bonne vision des choses et qu'on ne soit surtout pas des chrétiens terre à terre rationalistes qui ne marchent que par la vue humaine, mais des chrétiens qui sont de ceux qui développent cette vision de foi, cette vision spirituelle. Merci encore pour ta parole et tous ces exemples qui nous montrent de ne pas nous arrêter aux choses visibles, mais de regarder vers les réalités supérieures, les réalités éternelles. Seigneur, nous voulons aussi travailler à développer cette vision, parce que tout ce que nous pouvons voir dans ce monde peut nous attirer vers le bas. Mais Seigneur, tu nous entraînes toi-même à nous attacher aux choses d'en haut et à regarder vers le ciel, à nous attendre à ton action qui seule peut nous délivrer. Seigneur, nous te prions d'encourager, de bénir chacun, et que dans ta présence nous puissions trouver vraiment toujours toutes les solutions. Seigneur, tu es celui qui te révèle, qui guérit les yeux peut-être fatigué, peut-être malade, où la vision s'est détériorée. Merci de poser ta main sur nous et de nous permettre de voir ta gloire dans ton Église, de voir ta gloire dans ce monde, dans ta création, de, Seigneur, voir ta gloire dans mon frère, dans la vie de ma sœur, et de réaliser que nous sommes enfants de Dieu par grâce, de vivre cette vie spirituelle que tu veux pour nous. Oh, que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur. Amen.